Pourquoi la France voudrait renforcer ses relations militaires avec Djibouti où elle possède depuis des lustres une base militaire? Lors de son allocution prononcée à l'hôtel de Brienne le 13 juillet dernier, le président Macron a indiqué avoir demandé aux ministres et aux chefs d'état-major des armées de pouvoir repenser d'ici à l'automne l'ensemble de nos dispositifs sur le continent africain. C'est une nécessité stratégique car nous devons avoir des dispositifs moins posés et moins exposés, réussir à bâtir dans la durée une intimité plus forte avec les armées africaines et réussir à penser à un continuum entre notre offre diplomatique, nos actions rénovées pour le partenariat africain, nos actions de développement, notre présence militaire a ensuite développé Emmanuel Macron. C'est un changement de paradigme profond que nous devons faire et nous le ferons, a-t-il conclu. Et le site d'ajouter, outre leur présence au Sahel au titre de la lutte contre les groupes armés terroristes, les forces françaises disposent de plusieurs bases et autres points d'appui en Afrique, notamment au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Gabon ou encore à Djibouti. N'en déplaise aux journalistes français, tout observateur un tant soit peu objectif comprendrait que l'accent précipité où met Emmanuel Macron sur des retrouvailles militaires avec Djibouti est symptomatique de l'état de désarroi dans lequel se trouve la France actuellement au Sahel, et ce pour cause d'une guerre qu'elle a carrément perdue face au Mali, et que l'état malien continue à mener de façon hybride et sur plusieurs fronts contre l'ex-armée d'occupation. En fait, les médias mainstream n'en ont pas parlé, mais le spectacle de cette force aérienne malienne chassant sous le nez et barbe des radars franco-américains plantés au Niger les dits djihadistes, qui ne sont que les agents des services secrets France-US-OTAN, a particulièrement terrorisé les Français qui vont revivre le même scénario d'ici peu à Djibouti. Surtout que le président Guélé entretient d'excellentes relations avec la Chine, que Paris ne supporte pas, mais il y a une autre piste, Éthiopie-Djibouti. En Éthiopie, une seconde offensive US-OTAN-TPLF contre l'État vient d'échouer, et ce grâce à un partenariat complètement inattendu entre l'Érythrée et l'Éthiopie. En dépit d'inlassables efforts des médias mensonges, Addis Abeba reste inébranlable. L'affaire du barrage de Renaissance n'a pas non plus réussi à déstabiliser les liens Éthiopie-Soudan-Égypte et devenir une source de mal. L'Occident compte-t-il porter un coup par Djibouti voisin? Probable, mais c'est peine perdue dans la mesure où déjà les liens sont trop solides entre les deux pays pour que la France puisse y changer quelque chose. Surtout que le chemin de fer Éthiopie-Djibouti commence à transporter des véhicules entre Djibouti et Addis Abeba, et la connexion géographique va de pair avec la connexion géostatique. À moins que davantage de coopération militaire veuille dire provoquer un coup d'État propre à renverser Guélé.
Suite à l'affaire des 46 soldats ivoiriens qui sont détenus au Mali, Abidjan veut faire intervenir la CEDEAO qui est dirigée, donc en l'occurrence, par la France et les États-Unis. Le Mali a déploré jeudi la saisie de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest par la Côte d'Ivoire en vue donc d'aboutir à la libération des 46 soldats ivoiriens arrêtés au Mali, comme l'a déclaré le colonel Abdoulaye Maïga, le porte-parole du gouvernement, affirmant que le gouvernement n'est nullement concerné par cette procédure devant l'instance communautaire. Le gouvernement malien rappelle donc à la CEDEAO que l'affaire des 49 mercenaires ivoiriens est purement judiciaire bilatérale avant de mettre en garde l'organisation sous-régionale contre toute instrumentalisation par les autorités ivoiriennes pour se soustraire de leurs responsabilités vis-à-vis du Mali. En effet, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a saisi la commission CEDEAO pour une réunion extraordinaire en vue d'aboutir donc à la libération des 46 soldats ivoiriens arrêtés au Mali dans les plus brefs délais. Par voie de communiqué, le colonel Abdoulaye Maïga a d'abord souligné que le gouvernement de la transition a suivi avec une très grande préoccupation et une profonde stupéfaction le communiqué du Conseil national de sécurité de la Côte d'Ivoire tenu le 14 septembre au sujet des 49 Ivoiriens donc arrêtés à l'aéroport international de Bamako le 10 juillet. Donc, et contre lesquels la justice malienne a ouvert une procédure d'information judiciaire pour des faits graves touchant entre autres à la sécurité nationale et à la sûreté extérieure de l'État. Le gouvernement de la transition a rappelé les conditions illégales dans lesquelles ces forces étrangères, dont une trentaine de forces spéciales, sont arrivées au Mali en possession d'armes et de munitions de guerre sans ordre de mission ni autorisation, tout en dissimulant les identités et leurs professions réelles de militaires ainsi que l'objet précis de leur présence sur le sol malien. En outre, dit-il, contrairement à la déclaration des autorités ivoiriennes, la MINUSMA, officiellement saisie du statut de ces militaires par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, avait clairement indiqué que ces soldats ne faisaient pas partie des éléments nationaux de soutien. Par conséquent, aucune base légale ne saurait à présent justifier ni leur présence et encore moins leur mission au Mali. De même, le directeur en charge des questions africaines de la République fédérale d'Allemagne, reçu en audience le lundi 7 août au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, avait clairement indiqué qu'aucune agence allemande, encore moins le gouvernement, n'avait de lien contractuel avec des éléments ivoiriens arrêtés à l'aéroport. Par conséquent, son pays n'avait rien à voir ni de près ni de loin avec les personnes arrêtées, a fait savoir le porte-parole. Et selon lui, le gouvernement ivoirien avait reconnu sa responsabilité dans sa déclaration officielle lue par le ministre directeur du cabinet du président de la Côte d'Ivoire, M. Fidel Sarasoro, le 3 septembre à Lomé en ces termes. La Côte d'Ivoire déplore que des manquements et des incompréhensions aient été à l'origine de cet événement fortement regrettable. La Côte d'Ivoire, soucieuse de maintenir des relations de bon voisinage avec le Mali, s'engage à respecter les procédures des Nations Unies ainsi que les nouvelles règles et dispositions maliennes édictées relatives au déploiement des forces militaires au Mali. Maïga souligne qu'un tel revirement grave de la part d'autorités étatiques ne vise qu'à manipuler et à entraver la manifestation de la vérité. Le gouvernement de la transition souligne que c'est exclusivement en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature que le colonel Assimi Goïta, le président de la transition, a indiqué à la partie ivoirienne la nécessité de considérer la situation de certains Maliens objets de mandats d'arrêt internationaux. Cette attitude donc responsable du président de la transition qui a été malheureusement perçue par les autorités ivoiriennes comme étant une prise d'otage. Le gouvernement de la transition, tout en réitérant son attachement à la paix, à la sécurité et aux relations séculaires du bon voisinage, précise que pour le respect de la souveraineté, sa sécurité nationale aux intérêts vitaux de son peuple ne cédera à aucun chantage ou intimidation. Pourquoi la Côte d'Ivoire continue de garder les repris de justice sur son territoire? Est-il possible qu'il détienne des informations compromettantes concernant la France et que donc ni la France et de facto donc ni la Côte d'Ivoire ne veulent que ces informations ne parviennent aux autorités maliennes? Car si c'est le cas, les preuves que détient déjà le gouvernement malien contre la France concernant son association avec les groupes terroristes pourrait évidemment donc s'aggraver. En bref, les personnalités qui sont réfugiées en Côte d'Ivoire ont un mandat d'arrêt de la part de la justice malienne et il est tout à fait normal qu'ils doivent se rendre aux autorités maliennes pour répondre de leurs crimes. Le nouveau Mali ne cédera pas au chantage ni aux menaces et depuis lors, les autorités ivoiriennes auraient dû s'en rendre compte.
Amos Hochstein, envoyé spécial de l'administration Biden et coordinateur des affaires énergétiques internationales, a achevé mardi son séjour de travail à Kinshasa. Il a rencontré le président congolais Félix Tshisekedi et les deux hommes ont particulièrement échangé sur le développement du secteur minier. Les États-Unis manifestant de l'intérêt pour le cobalt et le lithium en RDC. Comment pourrait-on interpréter cette visite? Luc Michel, géopoliticien, nous en dit plus.
C'est l'administration Biden qui reprend la main sur le dossier de la RDC. Il faut savoir que la politique américaine en Afrique et particulièrement au Congo, elle n'est pas déterminée par la Maison-Blanche, mais par un think tank tout puissant aux États-Unis et en Afrique, qui s'appelle l'Atlantic Council. Ils étaient déjà au pouvoir sous George Bush II, fils, ils étaient au pouvoir sous Obama, ils étaient au pouvoir sous Trump, et maintenant sous Biden. Le précédent président Kabila avait mis à mal les intérêts américains en RDC et fait le fameux compte minier qui mettait les multinationales américaines au pas. La première voyage en étranger de Tshisekedi dès qu'il a été élu président, c'était précisément aux États-Unis, où il a organisé une série de conférences avec Atlantic Council. Il a appelé les multinationales minières à revenir au Congo. Mais maintenant, il faut savoir que les choses ont duré parce que la situation est chaotique. Et les prochaines élections qui vont avoir lieu risquent très peu de chances de voir Tshisekedi réélu. Il est en effet opposé à Kabila qui revient en politique avec son parti le PPRD, sa coalition électorale, le FCC. Mais il était aussi contesté par d'anciens supporters des États-Unis comme Moïse Katumbi ou même Fayoulou qui sont opposés à Tshisekedi, notamment sur la question du Rwanda. Les Américains essayent donc de remettre la main sur le secteur minier. Il faut savoir que le Congo, c'est un État-continent qui a été défini comme un scandale géologique, c'est-à-dire qu'il y a toutes les richesses et il y a notamment les terres rares qui sont indispensables, notamment le coltan, qui est indispensable à l'industrie occidentale, particulièrement dans le domaine des iPhones, des téléphones et des ordinateurs. Il faut aussi comprendre quelque chose, c'est que la vision que les Occidentaux ont du Congo, elle a été définie au début des années 60 par le Français Jacques Foccart, le créateur de la France-Afrique. Il a déterminé que le Congo était l'état géopolitique pivot de l'Afrique noire. Il disait qui contrôle le Congo contrôle l'Afrique noire, qui déstabilise le Congo déstabilise l'Afrique noire. Pendant les 50 ans où la France était le gendarme des Occidentaux en Afrique, cette géopolitique que j'ai suivie, et les généraux américains de l'Afrique, ils sont des grands admirateurs des généraux français des guerres coloniales en Algérie et au Cameroun, évidemment, ont repris cette vision. Donc, il est essentiel pour les Américains de contrôler le Congo, que ce soit économiquement, militairement et géopolitiquement.
Malgré son soutien au coup d'État du général Abdel Fattah al-Burhan en octobre 2021, l'armée affirme qu'elle est engagée dans la transition politique du Soudan, loin de tout programme politique partisan. Depuis que le général Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée et désormais président autoproclamé du Conseil souverain du Soudan, a dirigé le mouvement de coup d'État militaire qui a renversé le gouvernement civil de transition d'Abdallah Hamdok en octobre 2021, la scène politique soudanaise est devenue un casse-tête difficile à résoudre. Les manifestations citoyennes exigent le retour des militaires dont les casernes sont presque constantes depuis un an. Et malgré les efforts internationaux du mécanisme tripartite de l'Union européenne, des Nations unies et de l'autorité intergouvernementale pour le développement de l'Afrique de l'Est pour rapprocher les positions civiles et militaires et réactiver un processus de transition démocratique dirigé par les civils, la vérité est que jour après jour, la situation semble être de plus en plus bloquée. Le Parlement ougandais a qualifié d'affront une résolution adoptée jeudi par les eurodéputés et épinglant le méga-projet d'exploitation pétrolière de Total Energy en Ouganda et Tanzanie, en raison notamment de violations des droits de l'homme envers des opposants au projet. de TotalEnergies a annoncé en février un accord d'investissement de 10 milliards de dollars avec l'Ouganda, la Tanzanie et le géant pétrolier chinois CNOOC pour un méga projet pétrolier comprenant notamment la construction d'un oléoduc de plus de 1 400 km reliant les gisements du lac Albert dans l'ouest de l'Ouganda à la côte tanzanienne. Dans une résolution non contraignante, le Parlement européen s'est dit extrêmement préoccupé par les violations des droits de l'homme commises dans ces deux pays, citant arrestations, actes d'intimidation et harcèlement judiciaire contre les défenseurs des droits humains et les organisations non gouvernementales. Présente en Zambie depuis 1996, la compagnie minière First Quantum Minerals est le premier producteur du cuivre du pays. La société figure également parmi les 10 principaux producteurs mondiaux du métal rouge. En Zambie, la junior minière britannique Tertiary Minerals a annoncé le jeudi 15 septembre la signature d'un accord de coopération technique avec le géant First Quantum Minerals. La compagnie minière canadienne, active sur plusieurs mines de cuivre dans le pays, apportera son expertise en matière d'exploration sur deux projets de cuivre de Tertiary, Mukai et Mushima Nord. Ce partenariat se traduira par la mise en place d'un comité technique bipartite chargé d'évaluer les résultats d'exploration de Tertiary. Cette dernière bénéficiera aussi des données historiques collectées par les équipes de la compagnie minière canadienne, car Mukai et Mushima Nord sont respectivement à proximité de la mine de cuivre Sentinel et d'une autre zone d'exploration. Entamées en 2018, les négociations entre le Togo et le Ghana au sujet de la délimitation de leurs frontières maritimes communes sont sur le point de terminer. Les deux parties étant proches d'un accord, ont-elles indiqué prévu pour être signé en octobre prochain? C'est en tout cas ce que l'on retient de la dernière réunion de la commission technique conjointe mise en place à cet effet. Tenue les 8 et 9 septembre 2022 à Lomé, la rencontre a permis d'enregistrer des avancées majeures devant permettre d'aboutir à des solutions concertées sur la démarcation des frontières litigieuses. Sur le communiqué final cité par le quotidien national togolais, il ressort que la partie ghanéenne a proposé et présenté une nouvelle ligne frontière qui, indique-t-on, tient compte de la nécessité des deux parties de permettre au Togo d'avoir un accès à la haute mer, tel que convenu par le président Niasimbe et son homologue Akufo-Addo.